Bonjour à tous et bonjour à toutes. Ce mardi, pendant que l'on discute tranquillement sur les ondes du 88.8 en direct, une journée qui passera peut-être inaperçue pour certains s'organise pourtant à la Fac Saint-Charles à Marseille autour de quoi ? De la solidarité. Le 6 janvier, souvenez-vous, c'est une relaxe qui a été prononcée à l'égard du professeur du CNRS Pierre-Alain Mannoni. Il était poursuivi pour avoir tenté de transporter trois érythréennes de la vallée de la Roya jusqu'à la gare de Nice afin qu'elles se fassent soigner à Marseille. Un geste, somme toute, louable quand on y pense. Une autre affaire, celle de Cédric Héroux, agriculteur vivant à la frontière franco-italienne et poursuivi pour avoir aidé et hébergé 200 migrants, a été condamné le 10 février à plusieurs milliers d'euros d'amende. Dans deux cas qui ne sont pas isolés, cela relance la polémique sur le délit de solidarité. Les associations de soutien aux migrants dénoncent le délit de solidarité, mais qu'est-ce que c'est, au juste ? Vous aurez beau chercher dans l'ensemble des textes de loi, le délit de solidarité en tant que tel, ça n'existe pas. Alors, il fait toutefois référence à l'article L622-1 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile qui date de 1945, ça fait loin. Il dispose, je cite, que toute personne qui aura par aide directe ou indirecte facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irrégulier d'un étranger en France encourt jusqu'à 5 ans d'emprisonnement. Si ce texte est censé lutter contre les réseaux clandestins et les passeurs, comme on dit, son utilisation contre des bénévoles, des citoyens venant en aide à des migrants lui a valu cette appellation « vous, nous, toi et moi ». Une amie me dit souvent que quand quelqu'un tombe devant soi, la moindre des choses, c'est de l'aider à se relever. Alors en 2017, quand la question des migrants devient bien plus qu'un enjeu géopolitique, mais bien un fait de société, comment aider ? Peut-on aider ? En un mot, comment rester solidaire ? Voici les questions que nous allons tranquillement nous poser jusqu'à 13h30, histoire d'y voir un peu plus clair.
Radio Grenouille, écoutez tous la voix.
La voix de Sarah Sage. Bonjour à vous, Sarah.
Bonjour.
Vous faites partie de l'organisation de cette journée donc, qui s'organise en ce moment, hein, depuis ce matin, à la faculté Saint-Charles, l'université. On va vous demander pourquoi et comment vous avez organisé cette journée. Pierre-Alain Mannoni, bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes le fameux chercheur, hein, le fameux criminel, finalement, si l'on y pense, hein, condamné puis relaxé. On va évidemment entendre votre témoignage pour allier, si j'ose dire, la pratique de la solidarité à sa théorisation. Justement, Sarah, comment s'est organisée cette journée et pourquoi l'avoir mis en place à Marseille précisément et pas à Nice par exemple ?
Alors la journée, on l'a organisée dans le cadre du réseau MIMED, qui est le séminaire interlaboratoire sur les migrations de la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme. Donc on est cinq chercheuses.
Chercheuses au féminin alors.
Et oui, finalement il n'y a que des filles pour l'instant qui sont mobilisées sur cette thématique-là. Donc on travaille sur les migrations ou pas dans les différents laboratoires de sciences humaines de l'université Aix-Marseille. Et donc, on a été confrontés à ces campagnes contre le délit de solidarité, contre la criminalisation des solidarités. Il nous apparaissait assez important de lancer le débat au sein de l'université, mais aussi avec des acteurs associatifs, des militants. Ouais. Au-delà de Nice, on avait déjà organisé quelques ateliers à l'occasion du procès de Cédric Héroux, notamment en février. Et donc là, c'était aussi l'occasion de prolonger le débat, de faire venir aussi se rencontrer des militants de Nice, des témoins, avec des personnes militantes aussi à Marseille, étant donné que les procès en appel de Pierre-Alain Mannoni et Cédric Héroux auront lieu d'ici 15 jours.
Oui, c'est ça, quasiment à la fin du mois de juin. C'est aussi peut-être cette journée, et je le posais dans mon introduction, comment aider et peut-on aider à notre petit niveau, qu'on ne soit ni chercheur comme vous, Pierre-Alain, ou vous, Sarah, ni militant, j'allais dire, mais tout simplement, je citais une phrase très simple, quelqu'un tombe devant nous, quelqu'un a faim, quelqu'un a soif, quelqu'un veut passer une frontière, comment l'aider ? Est-ce que moi, en tant que simple citoyenne, je peux encore le faire aujourd'hui ?
Ben c'est toute la question aussi qui est soulevée par ces interpellations, ces procès, et qu'on est en train de discuter donc aujourd'hui et jusqu'à ce soir. Mm-hmm. Dans la jurisprudence, on attend justement le résultat de ces procès en appel qui sont... dont l'enjeu est justement de définir qu'est-ce qu'on a le droit de faire ou pas. Est-ce que Pierre-Alain Mannoni a eu raison d'aider ces trois femmes qu'il a prises dans sa voiture, par exemple ?
On va revenir très simplement à votre témoignage. Vous, Pierre-Alain Mannoni, qui avez vécu, j'allais dire presque dans la chair, ou en tout cas dans le quotidien, ce délit de solidarité, comment aujourd'hui, avec un petit peu de recul, une relaxe mais un combat qui n'est pas fini, comment vous le définiriez, ce délit de solidarité ? Vous avez été puni de quoi, selon vous, Pierre-Alain ?
Alors j'ai été poursuivi en justice avec par un procureur et un préfet qui se sont appuyés sur des textes de loi.
Sur cet article que je citais tout à l'heure qui concerne les passeurs, plutôt.
Voilà, c'est ça.
Vous n'êtes pas un passeur,
Pierre. Non, moi je ne suis pas un passeur dans le sens où il n'y a eu aucune contrepartie et puis ce n'était pas une organisation, ce n'était pas quelque chose qui était prévu. Je n'avais pas décidé d'avoir une action illégale. Moi, ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvé confronté à. Je me suis retrouvé face à trois jeunes femmes qui étaient blessées. Et donc, y avait une nécessité de les prendre en charge parce qu'elles avaient besoin de soins, elles étaient apeurées, elles étaient blessées, elles étaient fatiguées.
Une nécessité d'urgence, finalement, dans ce cas-là.
Exactement, une nécessité d'urgence et puis une nécessité de protéger la dignité et l'intégrité physique de ces personnes-là qui étaient dans un endroit où c'était pas convenable pour elles, vu leur état physique et leur état psychologique qu'elles restent. Donc j'ai fait le choix évident. Et à mon avis, c'est un choix que tout le monde est à la pulsion de faire, hein, devant des personnes qui sont en souffrance. On a cette pulsion qui, pour les aider. Après, est-ce qu'on le fait ou pas, ça dépend des barrières qu'on se met. Simplement, moi, ce que j'ai vu et ce que je continue à vivre, c'est qu'à partir du moment où on peut avoir tous les a priori, toutes les idées politiques, toutes les idéologies, quand on rencontre une personne face à face et puis qu'on voit que c'est une personne qui a un prénom, qui a une histoire, à ce moment-là, en fait, tous les a priori tombent. Et donc, voilà.
On se sent contraint d'aider. Si on revient à la définition de la solidarité, justement, j'ai pris la définition du Larousse, hein, je ne suis pas allé chercher très très loin, c'est le sentiment de responsabilité et de dépendance réciproque dont un groupe de personnes se sent moralement obligé, les unes vers les autres. Est-ce que c'est ça finalement la définition même de la solidarité? Vous parliez d'une nécessité, donc voilà, on se sent obligé d'aider ces trois Érythréennes pour le coup, ou les 200 personnes, les 200 migrants que Cédric Héroux a là aussi aidé. Est-ce que c'est aussi simple que ça, la solidarité? Et on reviendra, Sarah, avec vous sur les barrières par la suite.
Alors je pense que la solidarité, moi je sais parce que avec le recul, je me suis rendu compte que cette approche-là, en fait, je l'ai acquise dans mon éducation par mon grand-père justement en Corse, qui et cette culture, ce fonctionnement qui fait que on laisse pas quelqu'un sur le bord de la route. Et il n'y a pas que en Corse, il y a plein d'endroits dans le monde où quand il y a des gens sur le bord de la route, ils ont même pas besoin de tendre le pouce, on s'arrête pour les aider, pour voir ce qui Donc c'est quelque chose, ouais, que j'ai acquis dans mon éducation, à tel point qu'aujourd'hui, et je pense que c'est pas un cas exceptionnel, hein, mon point de vue, c'est quelqu'un qui est dans le besoin, c'est naturel de l'aider, c'est quelque chose qui a du sens, c'est l'action juste.
Vous auriez imaginé, vous trouvez, Pierre-Alain Mannoni, après avoir aidé trois personnes sur le bord de la route pour ne pas les laisser sur le côté dans un tel, j'allais dire, chaos juridique, médiatique, politique, très franchement?
Alors non, je ne m'attendais pas du tout à ça, effectivement.
Un bon professeur du CNRS comme ça.
Effectivement, je me suis retrouvé dans un tourbillon, je ne l'avais pas imaginé, mais aujourd'hui, ça fait quand même quelques mois, hein, que je me suis fait arrêter, et puis il y a eu tout ce tourbillon médiatique et judiciaire. Ce que je trouve, ce dont je me suis rendu compte aussi, c'est que j'aurais jamais imaginé qu'il y ait des gens à la frontière, la franco-italienne, qui soient obligés de cacher, de risquer leur vie pour essayer de rentrer. Et puis même une fois en France, qui subissent la pression des autorités et qui soient obligés de se cacher pour prendre le train, qu'il y a des rafles là à la frontière, qu'il y a des actions des autorités qui se fassent en dehors du droit. Je suis pas un spécialiste de l'histoire, mais j'ai vraiment vécu, pour moi ça me renvoie à ces films sur la résistance. J'aurais jamais pensé qu'aujourd'hui on puisse se retrouver dans des situations comme ça.
Vous vous sentez toujours résistant aujourd'hui?
Je pense, oui, je me retrouve. Aujourd'hui, il y a encore 80 personnes qui sont arrivées de la vallée de la Roya à Nice pour être prises en charge par des associations, par des bénévoles. C'est des gens qui font gaffe à pas faire d'écart pour pas se faire embêter par les autorités, qui essaient de protéger là ces migrants aussi en appelant les médias pour pas que les autorités prennent des mesures qui sont en dehors de la légalité. Donc oui, c'est une forme de résistance. Ouais.
Vous le referiez aujourd'hui, soigner ces trois érythréennes ?
Alors vous savez, la veille de me faire arrêter, j'étais avec ma fille et je me suis arrêté sur le bord de la route parce qu'il y avait quatre Soudanais. On les a emmenés en voiture, on les a hébergés à la maison et puis on a passé une super soirée à discuter avec eux. C'est là où ce que je raconte, tous les a priori sont tombés, puisque j'ai rencontré des jeunes qui venaient du Soudan, qui avaient une histoire. Il y en a un qui était coiffeur, l'autre qui était livreur, qui bossait pour se payer ses années d'études. Il a fait une première année de faculté. Et puis, ça faisait plusieurs mois qu'ils essayaient de passer pour rejoindre leur famille qui était à Marseille. Et donc, après les avoir hébergés, je les ai mis dans le train. Et donc en cachette, hein, on a trouvé une gare où il n'y avait pas de très peu de surveillance policière. Et donc quelques heures après, ils nous ont téléphoné, ils étaient à Marseille, ils avaient retrouvé leur famille. Et quand j'ai raconté ça à ma fille, elle a fondu en larmes, dans le sens parce que elle s'était battue pour quelque chose, elle a vécu la détresse de ces personnes-là. Et voilà, ce qu'elle a vécu pour moi, c'est ça vaut des années d'éducation.
C'est déjà une éducation à la solidarité.
Voilà, ça vaut des années d'éducation. Ça lui fait comprendre quelles sont les valeurs auxquelles moi je crois, et elle les a complètement acquises. Donc oui, bien sûr, je le referai.
13h10 sur Radio Grenouille, jusqu'à 13h30, on parle du délit de solidarité et de la solidarité. Sarah Sajne, vous qui êtes chercheuse, organisatrice aussi de cette journée qui se déroule à Marseille, à la Fac Saint-Charles, on peut y aller cet après-midi, on déroulera une partie du programme. Qui peut nous empêcher d'être solidaires et qu'est-ce qui peut nous empêcher aujourd'hui d'être solidaires? Si on fait un panorama un peu des obstacles dont parlait Pierre-Alain Mannoni sur ces barrières qu'on nous met aujourd'hui, comment vous les formuleriez, vous?
Mais justement, c'est tout l'enjeu, en gros, de la situation aujourd'hui, où on a, on en parlait ce matin, des autorités qui, finalement, se retrouvent dans l'illégalité, alors même que les citoyens ne demandent qu'à ce que le droit soit respecté, appliqué, et qui, finalement, se substituent à l'État défenseur de cette solidarité qui est censée être, en gros, au centre de notre projet commun, notre projet politique et de notre vivre ensemble. C'est aussi de ça, clairement, dont on veut parler.
Donc l'État, on va le dire simplement.
C'est clairement les autorités, qui mettent, en tout cas, et qui font croire que ces citoyens-là qui sont solidaires seraient dans l'illégalité. Bon, ce qui est aussi une manière, et on en parlait, et on en parlera encore cet après-midi, une manière certainement de cacher, d'invisibiliser ces populations migrantes, précaires. On a aussi d'autres populations qui ne sont pas migrantes et qui sont dans la précarité, dont finalement l'État ne s'occupe plus et qui sont de plus en plus marginalisées. Donc le délit de solidarité, il apparaît aussi comme une manière, comme un espèce d'écran de fumée, quoi, pour finalement camoufler le fait que l'État est complètement désinvesti et ne s'occupe plus en gros de la question sociale, mais l'ensemble de ses ressources sur les questions sécuritaires et sur la répression, notamment la répression de la contestation finalement de ses propres actions.
Une fois encore, ce délit de solidarité qui n'apparaît dans aucun texte de loi, hein, il s'agit vraiment de le rappeler.
Oui, le délit de solidarité, il faut le rappeler, en fait, il n'existe pas en tant que tel. C'est une expression, en gros, qui a été inventée par les militants pour justement dénoncer la criminalisation de certains actes de solidarité, notamment envers les personnes migrantes.
Ouais. Et ce qui nous empêche aussi, hein, évidemment, d'aider parfois, et ce sentiment, on revient à ce qu'on disait au début avec vous, hein, Pierre-Alain Mannoni, sentiment presque nécessaire, naturel, de vouloir être solidaire. Il y a un peu de public là derrière la vitre de Radio Grenouille. Je vais faire un petit test. On est 1, 2, 3, 4, 5. Demandez si aujourd'hui, qui serait capable d'aider, de faire passer des migrants ou de les héberger. Est-ce qu'on a des doigts qui se lèvent ici, derrière? Alors, 1, déjà 2, 3. 4, bon, quasiment une large majorité, 13h15 sur Radio Grenouille. On va écouter Mathieu Chédid et revenir avec Pierre-Alain Manoni et Sarah Sage, qui sont nos invités jusqu'à 13h30 sur Radio Grenouille. Mathieu Chédid avec un titre, et pas des moindres, Solidarité.
Yeah, 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 la. I don't love a new freedom and I know the world, what is that up for? I don't meet on not like me, what the hell they fighting for? Not a man with the blame ring us further apart, but he do not know. You can't rule another's heart, you can't get a love alone.
Solidarité, oui, jusqu'au bout. Hein. Ibrahim Malouf et Mathieu Chédid sur Radio Grenouille. Mathieu Chédid, Ibrahim Malouf, en tout cas Ibrahim Malouf qui sera à Nice le 18 juillet en concert. Et justement, on y reste à Nice dans la vallée de la Roya. Vous êtes sur Radio Grenouille, 13h18 précise.
J'écoute la radio n'importe où, n'importe quand. Chez moi, sur mon deux roues, en préparant mon cartable. Radio Grenouille.
Oui, Radio Grenouille, c'est ça, 88.8 en direct autour du délit de solidarité et de la solidarité en général, bien sûr, avec Sarah Sage, une chercheuse, je le mets au féminin, Sarah, vous le permettez, et Pierre-Alain Manoni, chercheur qui s'est fait lui aussi repérer, j'allais dire, dans les médias, je le rappelle, relaxé, hein, c'était en janvier.
C'est ça.
En janvier, après avoir aidé trois érythréennes. Vous vouliez réagir, Pierre-Alain, sur ma dernière question, ce petit test ludique, parce qu'être solidaire, c'est aussi l'être avec le sourire, je crois, et le rester. Qui peut aider aujourd'hui, qui serait capable d'aider des migrants, des personnes dans le besoin, dans la souffrance? Alors, vous m'avez répondu qu'il y en a beaucoup.
Eh bien oui, c'est vrai que moi je me suis retrouvé là dans ce tourbillon médiatique. Mon seul mérite, ça a été de me faire arrêter. Aujourd'hui, il faut savoir qu'à la frontière franco-italienne, à Marseille, dans les Hautes-Alpes, dans toute la France, hein, à Calais, à Paris, à Grenoble, en fait dans toute la France, autour des migrants déjà, il y a plus d'un millier d'initiatives, hein, de gens qui sont mobilisés pour venir en aide à ces personnes migrantes. Mais aujourd'hui, il faut se rappeler qu'il y a des milliers et des milliers de gens qui, au quotidien, aident aide, c'est-à-dire assiste DSDF, hein, et puis d'ailleurs on met parfois en opposition les gens qui aident les migrants, et puis on leur dit ouais, pourquoi vous aidez pas les SDF, c'est les mêmes ces associations qui aident les SDF, qui au quotidien préparent à manger, donc ils font des maraudes pour amener à manger à des personnes dans la rue, qui fournissent des conseils juridiques, qui fournissent de l'hébergement. Aujourd'hui il y a tout un tas de paroisses chrétiennes qui sont mobilisées, les institutions juives, des institutions musulmanes. Il y a aussi énormément d'associations, des grosses associations nationales, hein, comme la Ligue des droits de l'homme, Amnesty International, Médecins du Monde, qui sont mobilisées sur le terrain, et puis tout un tas d'associations locales. Et moi, ce que j'ai découvert aussi dans mon aventure, c'est tout un tas de particuliers qui, en permanence, tout au long de l'année, ils aident, ils assistent avec la solidarité, sans se revendiquer de quoi que ce soit.
J'allais dire comme vous, hein, à la base, ça a été Cédric Héroux, hein, Sarah Assage, je reviens aussi. Alors lui, son aide a été, j'allais dire, plus conséquente, même si on n'est pas là pour faire des hiérarchies, hein, dans la solidarité, mais il a tout de même aidé et hébergé à peu près 200 migrants, hein, c'était ça.
Et il continue
à le faire chez lui, apparemment d'ailleurs à Nice.
Bah, en ce moment même, d'ailleurs.
Il y a toujours des gens chez lui. Hein.
Il n'a pas pu assister... à la journée qu'on organisait aujourd'hui, du fait de la situation. Donc ouais. Aujourd'hui, il y a un accord qui a été passé avec les autorités pour justement que les personnes en migration qui arrivent dans la Roya puissent rejoindre Nice pour demander l'asile.
Tout simplement.
Et simplement que le droit soit respecté.
Vous connaissez Cédric Héroux, Pierre-Alain
oui,
Meloni.
Oui, c'était un copain, c'était ouais. Un copain d'avant, hein, tout avant cette crise, cette situation. Il faut bien comprendre la situation aujourd'hui dans la vallée, avec la fermeture des frontières qui est due à la COP21. Il y a des barrages policiers, il y a des gendarmes, il y a des militaires qui font des inspections sur les sentiers. Malgré ça, il y a des dizaines de personnes qui passent tous les jours, qui rentrent en France, et alors qu'elles sont sous la pression des autorités. Ces personnes-là, avec tous ces barrages, elles sont amenées à prendre de plus en plus de risques. Aujourd'hui, on est à plus de 13 personnes qui sont décédées en essayant soit de passer la frontière, soit une fois qu'elles ont passé la frontière, ont vécu des accidents ou en essayant de fuir des contrôles de police. Se sont mis en danger et sont décédés. Donc la situation est loin d'être réglée. Le délit solidarité, c'est pas seulement un concept. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui se passe. Là, il y a des problèmes graves qui se passent à la frontière. Un autre élément très important à savoir, c'est que le préfet des Alpes-Maritimes a été condamné. Hein, les associations, ce qu'elles demandent depuis le début, c'est le respect du droit, le respect de la loi. Et dans mon cas, j'ai été relaxé parce que mon action n'est pas une enfreinte à la loi. Le procureur a poursuivi suite à la demande du préfet, mais donc la solidarité, dans mon cas, ce n'est pas enfreindre la loi.
Et c'est important de le rappeler, vous n'étiez pas quelqu'un, une sorte de rebelle qui voulait absolument se confronter à l'autorité, c'était pas du tout ça. Hein,
non, absolument pas.
Le délit de solidarité n'en est pas là. Une question aussi, Sarah Sage, pour revenir aux associations qu'on pourra rencontrer cet après-midi. C'est important de faire cette émission aujourd'hui pour être en plein dans cette journée que vous organisez autour du délit de solidarité. Il y a le collectif Agir, la Roya Citoyenne, pas mal d'associations comme ça qui se mobilisent pour aussi donner à voir les initiatives encore possibles aujourd'hui. C'est à 16h15, vous voulez peut-être en toucher un petit mot cet après-midi?
Oui, alors...
Concrètement, en fait, ce sera ça. Comment aider concrètement?
Alors, on aura une formation juridique à 14h jusqu'à 15h30, donc avec deux avocates, une avocate du Gisti et une des avocates de Pierre-Alain qui sera là, donc une avocate de Nice qui fait partie du syndicat des avocats de France. Donc ils répondront à toutes les questions des participants sur leurs droits en tant qu'aidants, en tant que militants, mais aussi sur les possibilités que le droit peut encore offrir, puisqu'on est encore un petit peu en démocratie et en
c'est
république.
C'est ça, ouais. Quelle est notre espèce de liberté finalement ?
Comment on peut utiliser aussi le droit dans nos mobilisations contre justement le non-respect du droit français. C'est un petit peu contradictoire. C'est justement aussi la situation dans laquelle on est aujourd'hui. C'est que les autorités qui sont censées faire respecter le droit ne le respectent pas. Et donc, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait à partir de là ? On parlait un petit peu de dérive du système démocratique, où on a finalement des citoyens qui se battent pour l'application du droit. Donc, c'est ces questions-là auxquelles les avocates nous aideront, en tout cas, à répondre. Et puis, dans un second temps, à 16h, on aura une table ronde avec, comme vous disiez, plusieurs associations, donc de Nice, de Marseille, mais aussi on a des représentants d'associations qui étaient et qui sont toujours actifs à Calais. Ça sera l'occasion aussi de partager un petit peu des expériences qui sont différentes dans des contextes qui ne sont pas forcément toujours similaires. Et puis voilà, il y a d'autres associations qui sont présentes, des représentants d'associations qui sont aussi dans l'Assemblée, qui sont venus discuter avec nous, se rencontrer pour peut-être planifier en tout cas des mobilisations et une coordination qui soit nationale, régionale, très locale
et européenne. J'ai eu le plaisir de recevoir hier Robert Guédiguian, le réalisateur marseillais, qui disait quelque chose d'assez joli dans l'instant 2. Hier soir, il disait que toute l'humanité globalement émigre, n'ont pas de bon cœur, et toute l'humanité aimerait rester chez elle si elle le pouvait. Ça vous parle tous les deux, cette vision peut-être qui paraît un peu simpliste hein, comme ça de la migration, mais qui est pourtant tout à fait, j'allais dire louable et profonde, Pierre-Alain Mannoni.
Effectivement, les personnes moi que j'ai rencontrées qui migrent, quand elles racontent leurs histoires, effectivement, elles fuient. Hein. C'est pas des gens qui ont pour objectif de rejoindre la France. C'est des personnes qui fuient. Ce que ça veut dire aussi le délit de solidarité, là, comment ça se passe ici. Pour moi, ça traduit une dérive de la société. En fait, la France, elle s'est construite sur un modèle, hein, sur ses valeurs de liberté, égalité, fraternité. On voit qu'aujourd'hui ces actions des pouvoirs publics, en fait, ça ne respecte pas ce modèle de société-là. Et d'ailleurs, il y a tout un tas d'institutions, hein, le syndicat des avocats de France, le syndicat de la magistrature, des grosses associations comme Amnesty International qui ont condamné, hein, les actions des pouvoirs publics dans un rapport qui s'appelle « Aux confins du droit ». Il y a même le pape, d'ailleurs, hein, qui s'est positionné sur l'accueil des réfugiés. Donc, il faut être lucide sur le fait que ces valeurs, hein, qui ont été amenées par des intellectuels, par une réflexion sur ce projet de société en France, et d'ailleurs qui a essaimé, hein, sur toute l'Europe et même dans le monde, aujourd'hui ce modèle il est mis à mal par des intérêts qu'on a du mal à qui ne défendent pas ces valeurs-là.
Mmh. Sarah, un dernier mot peut-être en
arrivant
à la fin.
Personnellement, je suis pour le droit à la libre circulation. J'ai personnellement émigré en Belgique. Je crois que la plupart de nos concitoyens, comme on dit, sont plutôt ravis de pouvoir bouger comme ils l'entendent. Et je vois pas pourquoi, en fait, on refuserait ce droit à trois quarts de la population, finalement. Mm. Pourquoi on réserverait ce droit à, en gros, une population blanche, occidentale, plutôt riche. Pourquoi aussi les capitaux et les marchandises auraient le droit de circuler dans le monde entier et pas les gens qui, finalement, aussi veulent peut-être retourner un jour dans leur pays. On est aussi face à des situations où les personnes qui sont arrivées en France ou en Europe, en tout cas, du fait du non-respect du droit qu'on leur accorde en gros à bouger, ne peuvent même plus finalement aller voir leur famille et faire des allers-retours. Mmh. Alors qu'on pourrait très bien être riche de ces échanges-là.
Et vous êtes riche de partir à Bruxelles et de revenir à Nice chez vous, tout en passant par Marseille.
Exactement.
Ce qui enrichit aussi votre recherche. Je rappelle que vous êtes chercheuse, vous organisez avec d'autres cette journée. On peut les citer, on a encore quelques secondes pour citer les organisatrices aussi de cette journée autour du délit de solidarité jusqu'à ce soir.
Oui, alors les organisatrices, c'était Laurence Pillan, Laura Audasso, Morgane Dujmovic et Chiara Petenella, et moi-même.
Et vous, Sarah Sage.
Toutes chercheuses à l'université Aix-Marseille.
Voilà, on peut en profiter jusqu'à ce soir, 19h, à la Fac Saint-Charles.
Oui. On aura aussi une projection pour ceux qui travaillent, hein, parce qu'il y a quand même des gens qui ne peuvent pas assister toute la journée à un débat. Donc à 19h, au Vidéodrome, on projettera un mini-documentaire sur la situation dans la Roya, et puis ça sera suivi de quelques coups qu'on pourra avoir ensemble et pour continuer
dans la
à
convivialité
discuter.
Évidemment, merci d'être venu en parler, en tout cas Sarah Sage, Pierre Manoni, merci beaucoup. Le 26 juin c'est la date du procès en appel.
Tout à fait,
on
ouais.
vous souhaite évidemment beaucoup de courage et beaucoup de solidarité autour de vous cette fois-ci.
Merci.
Pour mener ces combats. J'en profite aussi pour vous souhaiter une belle après-midi sur Radio Grenouille et remercier toutes celles et ceux qui ont été solidaires de leur radio associative d'avoir réussi à donner quasiment 12 000 euros. La campagne de soutien s'est terminée le 20 mai. Donc merci, merci, merci aux quelques 250 mécènes qui ont donné d'un euro à un peu plus, d'ailleurs quelques centaines, pour que la radio libre, créative, solidaire et conviviale, à savoir Radio Grenouille, continue de persister. Il est 13h30, très bel après-midi, à très vite sur Radio Grenouille, les 3-8.